Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous continuons, comme je l'ai dit, notre étude et aujourd'hui, nous aurons la première partie d'un témoignage hors du commun. Le Maharishi est un saint qui a vécu dans la région de l'Himalaya comme ermite. Il a accepté un jour Jésus-Christ, son sauveur et seigneur, en rencontrant un missionnaire. Le Seigneur l'a béni hors du commun, et voilà son témoignage intéressant et édifiant. La mort de Magui et son arrivée au ciel. Un jour, j'avais à cœur de prier pour la France. C'est ce que dit le Maharishi. Alors que j'étais en train de prier, j'ai vu soudain des anges qui se dirigeaient rapidement en direction de la ville de Paris. À l'interrogation que je formulais, il me fut répondu qu'ils allaient accueillir et escorter jusqu'au ciel un esprit qui devait quitter la terre ce jour-là. Je demandais la permission de suivre les anges afin que je puisse voir comment les esprits étaient accueillis dans le ciel. Ma requête fut agréée et je suivis les anges jusqu'à la maison d'une pauvre femme. À l'intérieur, le corps d'une jeune fille de 21 ans, prénommée Maggie. Elle reposait sur son lit de mort. Elle était entourée de ses proches en pleurs. Après seulement une quinzaine de minutes, l'un des anges toucha de la main les yeux de Maggie. Et soudainement, ses yeux spirituels s'ouvrirent et elle a pu voir qu'un grand nombre d'anges étaient venus pour l'accueillir et avec eux, un grand nombre de ses parents et amis décédés avant elle. Regardant un peu plus haut, elle aperçut également une grande échelle d'or qui conduisait jusqu'au ciel et sur laquelle descendait une autre armée de chérubins chantant des hymnes de louange et de gloire. À droite de l'extrémité de cette échelle d'or, donc qui était énorme, elle portait donc en lettres d'or étincelantes l'écrit suivant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aussitôt, Maggie se souvient que c'était les mots que le Seigneur Jésus lui-même avait prononcés de ses lèvres. À peine y avait-elle surtout pensé qu'elle a vu le Seigneur debout dans l'ouverture du portail, le visage resplendissait de lumière. Le cœur de Maggie déborda de joie et elle commença à consoler sa famille en pleurs. « Ne vous désolez pas pour moi. Je vais très bien entrer bientôt dans un lieu de repos et de grand bonheur. » Des centaines d'anges rayonnants de lumière sont venus jusqu'ici pour me chercher. C'est vrai. Et et pas seulement des anges, mais le Seigneur lui-même m'attend à la porte. Au lieu de pleurer, vous devriez vous réjouir, car je quitte cette vie de misère pour entrer dans le royaume du repos et de la joie sans fin. Mais ces paroles ne consolèrent en rien ses proches. Ils pensaient qu'elle délirait. Et quand arriva l'heure de s'en aller, elle s'écria « Seigneur, je remets maintenant mon esprit entre tes mains. » Et elle rendit son dernier souffle. Dès que son âme avait quitté son tabernacle terrestre, elle a pu voir sa chère maman embrasser son corps sans vie, puis éclater en sanglots et pousser des cris à faire pitié, tandis que toute la famille pleurait aussi très amèrement. À cette vision, le cœur de Maggie fut rempli d'une grande tristesse. Aussi, afin de les consoler, elle se mit à dire à ses bien-aimés des paroles de réconfort. Mais elle fut grandement surprise quand elle se rendit compte qu'il ne semblait pas l'entendre. Elle voulut alors toucher son corps et sentir son existence, mais à son grand étonnement, elle découvrit que ce corps ne pouvait pas être senti ou touché. Puis il lui fut annoncé que l'heure était maintenant venue de ne plus désormais s'attarder sur la terre. Les anges l'escortèrent jusqu'au ciel en formant une haie de chaque côté du chemin. Quand elle a atteint la porte du ciel, certains des anges qui sont parmi les plus importants sortirent pour l'accueillir. Et le Seigneur Jésus lui-même était là. Il étendit sa main bénie, la reçut dans ses bras pleins d'amour, et ils entrèrent au ciel. Des larmes de joie emplissaient les yeux de Maggie devant ce grand honneur que le Seigneur lui faisait. Plusieurs fois, elle demanda « Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter pareille réception ? Après tout, je n'étais qu'une pécheresse. » Toute sa vie, cette jeune fille avait essayé de marcher dans les voies du Seigneur. Et dans cette marche spirituelle, elle avait accompli plusieurs actions qu'elle considérait, elle, comme insignifiantes. Mais on lui dit que tout cet honneur lui était accordé en remerciement de ce qu'elle avait fait pour Dieu au cours de sa vie terrestre. Et de même que Dieu se souvient de tout acte mauvais qu'un homme ait commis, de même, l'homme reçoit la juste récompense du tout ce qu'il fait de bien pendant qu'il est sur la terre. Comme je n'étais encore jamais entré au ciel auparavant, je demandais la permission de suivre Maggie et son escorte afin de m'en faire une idée, ce qui me fut accordé. Voici alors ce que j'ai pu voir. Dès que je fus entré dans le ciel, j'ai vu de hautes et magnifiques demeures qui s'étendaient sur de longues distances dans toutes les directions. Mais elles n'étaient construites ni de briques d'argile et de mortier, ni de verre, de cristal ou d'une quelconque autre matière. Bref, ce sont des demeures qu'aucun langage humain ne peut décrire et que l'imagination ne peut pas comprendre. Quand Maggie a vu ces palais imposants et superbes, elle fut saisie de stupeur. Elle demanda aux anges qui l'accompagnaient, qui étaient les occupants. Oui, elle demanda, mais qui sont les occupants de ces majestueuses habitations? Il lui fut répondu que c'était là qu'habitaient maintenant les saints qui avaient combattu et gagné les batailles spirituelles sur la terre. Ces vastes demeures célestes avaient été préparées pour eux, tandis qu'ils étaient encore sur la terre. Un peu plus loin, les anges s'arrêtèrent à l'une d'entre elles, surprises devant sa magnificence, vraiment une demeure magnifique et étonnante. Maggie voulut savoir si elle appartenait à quelque monarque. « Non, 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 lui répondirent les anges, car il n'y a pas ici cette sorte de distinction. Le roi et le mendiant sont sur un même pied d'égalité ici. La splendeur de ces demeures ne dépend pas que des mérites des serviteurs de Dieu, mais de ce qu'ils ont fait durant leur vie pour essayer d'atteindre des âmes pour qu'ils soient arrachés à la perdition éternelle pour être sauvés. Et cette demeure ici, c'est la tienne. Elle vient tout juste d'avoir été achevée aujourd'hui. » En pénétrant dans sa maison de joie et de paix éternelle, Maggie a vu à l'intérieur une couronne sertie de 4 gemmes étincelants. Elle demanda à qui cette couronne était destinée et ce que signifiaient ces 4 incrustations. On lui répondit que cette couronne était la sienne et que les 4 pierres précieuses représentaient les 4 âmes que son enseignement biblique avait gagnées pour le Seigneur. À ces mots, Maggie explosa en débordement de joie. C'est en chantant des hymnes de louange et en exaltant le saint nom du Seigneur qu'elle entra dans sa demeure céleste afin d'y habiter dans la joie et la paix qui n'ont point de fin. Ensuite, après que les anges eurent escorté Maggie jusqu'à sa demeure céleste, ils me donnèrent encore quelques explications à propos de ces maisons. Parmi celles-ci, ils m'en montrèrent une dans laquelle se tenait un saint qui portait une couronne d'or. Cet homme, me dirent-ils, est un saint qui a vécu sur la terre dans la foi et la crainte de Dieu, et qui a passé sa vie à faire le bien. Ils m'en montrèrent une autre dans laquelle était assis un saint dont la couronne était incrustée de gemmes et de rubis scintillants. Magnifique. Celui-ci, me dirent-ils, est un autre saint qui n'a pas seulement vécu une vie droite, mais qui a sauvé plusieurs autres âmes en les amenant sur la voie du salut. Le nombre de pierres précieuses de sa couronne correspond au nombre d'âmes qu'il a sauvées. Elles brilleront éternellement comme des étoiles, témoignant à jamais de son œuvre sur la terre. Te souviens-tu de ce qu'a dit le prophète Daniel? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et cela à toujours et à perpétuité. Daniel, chapitre 12, verset 3. Puis on me montra encore une autre maison dans laquelle se trouvait un saint dont le corps entier était couvert d'étoiles scintillantes. Celui-ci, me dirent-ils encore, fait partie de ces saints qui ont souffert la persécution et le martyre. Tout cela pour la cause de Jésus-Christ. Désormais, toutes les marques de coups ou de meurtrissures qu'ils ont reçues sont autant d'étoiles qui brillent sur leur corps céleste. En observant ces immenses maisons, je remarquais que certaines d'entre elles n'étaient pas habitées, que d'autres étaient inachevées et que d'autres encore n'en étaient que aux fondations. Je demandais pourquoi il en était ainsi. On me répondit que depuis que ces maisons avaient été affectées à des serviteurs de Dieu particuliers, l'avancement de leur construction dépendait uniquement de la progression spirituelle de ces serviteurs de Dieu. Quand, en avançant dans la vie, ils ont une progression dans leur bonne action, leur demeure céleste progresse pareillement dans leur construction. Les demeures incomplètes que tu vois ici appartiennent à ces serviteurs, hommes et femmes du Seigneur, qui combattent encore sur la terre, et qui ont encore devant eux bien plus d'un jour de labeur avant d'entrer dans le ciel. Indiquant une maison vide, je demandai la raison de cette inoccupation. Un ange me répondit : c'est aujourd'hui même que son propriétaire vient d'achever sa course. Il est d'ailleurs sur le point d'arriver au ciel. Il n'avait pas achevé de parler lorsque j'ai pu voir qu'un grand nombre d'anges étaient en train d'escorter un saint jusqu'à cette maison vide qui avait suscité ma question. Oh, quelle gloire merveilleuse ! Car tous les fidèles serviteurs du Seigneur quitteront un jour ce monde mortel pour aller habiter leur demeure céleste, selon ce que l'apôtre Paul déclare dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. À côté de ce que j'ai vu du ciel de mes propres yeux, je connais un certain nombre d'autres choses qu'on évoque pour moi, qui ont évoqué donc pour moi les esprits à un moment ou à un autre. Et là, j'ai reçu une fois la visite de l'esprit du jeune fils de la veuve de Nain que le Seigneur Jésus avait ressuscité des morts. On lit du reste, et notez bien, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 7, et des versets 11 à 16, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'avait vu, et il fut ému de compassion pour elle, et lui dit : ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, et tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Voici brièvement le récit que le jeune homme m'a fait avec ses propres mots. Et lorsque j'ai quitté ce monde, dit-il, pour me retrouver dans le monde spirituel, alors j'ai commencé par me sentir très misérable. Je ne trouvais pas le repos, car toute ma vie, j'avais entendu de bonnes choses à propos du Seigneur Jésus, mais cependant, je n'avais fait aucun cas de lui. Et lorsque, en arrivant ici, je découvris que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons être vraiment sauvés, je fus dans une très grande déception et je criais à Dieu pour qu'il m'accorde une nouvelle opportunité. Je lui demandais la possibilité de retourner vers le monde d'où j'étais venu afin de le servir et de devenir ainsi un héritier du ciel. Ceci était absolument contraire aux lois célestes. Mais pour que Christ soit glorifié au travers de mon retour à la vie, ma requête fut agréée et la permission de revenir sur terre me fut donc accordée. De retour à la vie terrestre, je fus surpris de constater que le même Seigneur, le même Dieu que j'avais vu dans l'au-delà, se trouvait également là, debout, à côté de moi. Ceci m'étonna tellement qu'à peine le Seigneur Jésus m'avait rendu à ma mère que je le dis à d'autres. Mais tous se moquèrent de moi et me dirent que c'était un rêve. Alors comme personne ne voulait croire ce que je disais à propos du ciel et de ce que j'en avais observé, je gardais pour moi toutes ces choses. Après ma résurrection, j'ai passé tout le reste de ma vie à servir le Seigneur. J'ai été l'un des 70 disciples qu'il a envoyés deux par deux pour prêcher la bonne nouvelle à travers le monde. Après cela, il me décrivit le ciel, ses habitants et ses immenses maisons, exactement comme je les avais vus de mes propres yeux. Ce qui précisa totalement la signification des paroles du Seigneur Jésus qui avait déclaré « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. » Saint Jean, chapitre 14, verset 2. Un philosophe athénien, écoutez bien, un jour, j'ai reçu la visite d'un éminent philosophe d'Athènes qui m'a raconté comment il avait obtenu le salut. Voici son témoignage. Étant versé dans mes sciences, j'aspirais grandement à connaître le monde invisible et à savoir si l'âme était une réalité ou seulement le produit de l'imagination humaine. Je poursuivais mon investigation auprès de sources diverses lorsque quelqu'un me parla du fils de la veuve de Nain que Jésus avait ressuscité des morts. Je me rendis vers lui et je le questionnais sur ce qu'il avait vu de l'autre côté. À l'écoute de sa description au ciel et de l'omniscience de Christ, je fus extrêmement impressionné et j'acceptai immédiatement que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Je l'ai accepté dans mon cœur. Je me sentis alors très heureux et je fus reconnaissant à Dieu de m'avoir donné une si précieuse opportunité de trouver Jésus-Christ pendant que j'étais encore sur terre. Oui, gloire à son saint nom, car je suis vraiment un homme heureux. Et à présent, nous avons le témoignage d'un philosophe romain. L'homme dont je vais maintenant parler s'appelait Phinéas. Lui aussi était un philosophe à l'époque où Christ vivait sur la terre. Il avait entendu beaucoup de choses sur Christ et sur les œuvres merveilleuses qu'il accomplissait et il avait un intense désir de le voir. Ce qui suit est la narration de sa rencontre avec lui en ses propres termes. Voici son témoignage. Lorsque j'arrivai sur la terre de Canaan, je me mis à la recherche du Christ. Mais la plupart de ceux que je rencontrais sur mon chemin me disaient que je n'allais pas avoir la possibilité de le voir parce qu'il avait toujours une foule immense autour de lui. Ceci me déçut beaucoup. Mais alors que je m'approchais de l'endroit où l'on disait qu'il se trouvait, je rencontrai sur le chemin un homme en train de porter son lit. Je lui demandai d'où il venait et il me répondit que c'était de l'endroit où se trouvait Jésus. Je fus particulièrement encouragé et je le questionnai pour savoir comment il s'y était pris pour l'approcher. Il se mit à rire et il dit « Ce n'est pas difficile, le moins du monde. Ceux qui vont à lui avec de bonnes intentions ne reviennent jamais déçus. Regarde en ce qui me concerne. Je suis resté 41 ans couché au bord du réservoir de Siloé. Il n'y avait personne pour m'aider et jamais je n'ai eu la chance de pouvoir sauter dans l'eau quand elle se mettait à s'agiter. Il se trouva que voilà qu'un jour, le Seigneur Jésus passa par là et me vit de loin. Il s'approcha lui-même de moi et me dit « Prends ton lit et marche. » À peine avait-il dit ces mots que vraiment je sautai de mon lit avec vigueur. Puis je m'en allais en louant Dieu et en glorifiant le saint nom de Jésus-Christ. Tu vois, tu ne dois pas avoir peur parce que un grand nombre de ceux qui ne peuvent même pas le voir, il les appelle par leur nom et il écoute leurs requêtes. Il connaît les secrets des cœurs humains. Il guérit beaucoup de personnes en les appelant auprès de lui. Mais des centaines d'autres recouvrent la santé uniquement en touchant le bord de son vêtement. Ces choses m'encouragèrent encore davantage et je poursuivis ma route et me réjouissant. Arrivant à l'endroit où était Jésus, voilà que j'ai pu voir effectivement qu'une immense foule était assemblée autour de lui. Frayant mon chemin dans la multitude, je pus m'approcher suffisamment pour pouvoir voir sa face et l'entendre. Le visage du Seigneur se dégagea de la foule et il saisit mon regard, ou plutôt le fond de ma pensée. je restais absolument fasciné par le charme de son visage et par l'humilité et la gentillesse qui émanaient de ses yeux. Il regardait la foule autour de lui avec un regard rempli de compassion. Alors que je voyais son visage, j'ai pu voir dans la foule quelqu'un s'avancer vers lui. C'était un homme qui avait une main atrophiée. Quand l'homme lui demanda d'être guéri, tout ce que le Seigneur lui répondit fut ceci. « Va, tes péchés te sont pardonnés. » Et la main de l'homme redevint normale. On m'a raconté plus tard que cet homme avait été auparavant trésorier du temple et qu'il avait eu l'habitude de détourner des fortes sommes d'argent. L'atrophie de sa main avait été la punition de son péché. Mais comme le péché était devenu sa nature profonde, il ne lui était jamais venu à l'idée que la maladie de sa main était due à sa malhonnêteté. Mais au moment où le Seigneur lui avait dit « Tes péchés te sont pardonnés », alors là il reçut instinctivement la révélation que ses péchés avaient été la cause de son malheur. Et à l'instant même où ils lui furent ôtés, donc les péchés, sa main fut immédiatement guérie également. J'ai remarqué que dans la plupart des cas de guérison, Jésus-Christ ne disait rien d'autre que ceci. Tes péchés te sont pardonnés. Il prouvait par là que le péché était vraiment la racine de la maladie et que sa suppression entraînait la disparition normale de la maladie. Outre ceux que je viens de décrire, j'ai vu le Seigneur Jésus faire beaucoup d'autres miracles. J'avais pu maintenant m'approcher plus près de lui, mais je ne pouvais pas encore croiser son regard, bien que je brûlais du désir de lui parler. Et c'est alors que, lisant mes pensées, le Seigneur lui-même m'appela. À sa voix, je me pressai jusqu'à lui, et là, je tombai à ses pieds et l'adorai. Ce fut lui-même qui me releva. Il m'accorda le pardon de mes péchés et il me bénit en posant sur moi sa main sainte. Je repartis vers mon pays en me réjouissant dans ma nouvelle vie. Et bien qu'à cette époque, ceux qui étaient ses disciples et qui confessaient son saint nom risquaient la mort, je n'eus aucune crainte, et je proclamai ouvertement que Jésus-Christ et lui seul était le sauveur de l'humanité. Chers amis, nous arrêtons ici notre première partie de cette étude. Demain matin, Dieu voulant, nous aurons la deuxième partie. Chers amis, nous allons maintenant prier, mais avant de prier ensemble, je voudrais vous transmettre quelques enseignements et encouragements. Écoutez bien. Ne vous occupez de chacune de vos difficultés que lorsqu'elles se présentent. À ce moment-là, apprenez à la dominer en Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur. Dites-vous simplement, en lui, j'ai la victoire. il ne s'agit pas pour vous d'une lutte toute personnelle contre le mal ou d'une victoire à remporter sur quelqu'un. N'en faites jamais une affaire personnelle. Si vous menez une lutte avec les armes du monde, l'envie, le ressentiment, la colère, vous ne pouvez utiliser en même temps celle de son royaume, qui est la prière, qui est l'amour et qui est la paix, qui pourtant vous remplirait d'une force proprement divine et invincible. C'est en essayant d'utiliser en même temps les armes de Dieu et celles du monde que vous courez au-devant de l'échec. Le monde alors vous regarde avec pitié et dédain, et vous-même, qui pourtant vous croyez être mes disciples, mais vous doutez et vous vous étonnez. Il arrive souvent, en effet, que ses disciples ne voient pas leur propre erreur, mais qu'ils rendent responsable le Seigneur de souffrances qu'en réalité, ils n'avaient pas en vue du tout pour eux. Où est pour vous le défaut de la cuirasse? Pourquoi êtes-vous à nouveau tombé? C'est pure folie de vous attarder toujours sur vos points faibles, de vous lamenter au sujet de votre impuissance. Ce n'est pas par eux-mêmes que mes disciples sont forts, c'est en Jésus-Christ, votre Seigneur. La force n'est pas donnée à celui qui reste penché sur lui-même, fût-ce dans la repentance la plus sincère. Regardez plutôt vers lui, vers votre Seigneur. Et puis, quel que soit le sacrifice exigé, soyez sans pitié pour tout ce qui a pu faire obstacle ou occasionner votre chute. Chers amis, après ces enseignements et encouragements que le Seigneur m'a donné pour vous, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, prier ensemble. Reste avec nous, ô Seigneur, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Veillez et priez en tout temps, afin que vous soyez et que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. La nuit est venue et les ténèbres et du fond de l'abîme, nous t'invoquons, ô Éternel, car toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur nous et nous sommes tombés. Mais nous serons debout dans les porches de Jérusalem. Amen. Chers amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et Dieu voulant, à demain matin. Au revoir.